rasseoir. Encore une fois, merci. Merci à notre chorale, merci à notre frère Dido, merci à Brett, à Marie, à tout le groupe qui les accompagne. Ça m'a fait plaisir de vous revoir et surtout de louer, d'adorer le Seigneur ensemble. Ça me ramène un peu quelques années en arrière lorsque, eh bien, Marie et Brett ainsi que leur groupe sont venus chanter à l'église La Pierre Vivante lors d'un des concerts de Pâques avec Daddy, avec tout le monde. En tout cas, ça me réjouit de voir que votre arrivée ici apporte quelque chose à la louange. Amen. Gloire au Seigneur. Bien, merci également à chacun de vous d'avoir répondu nombreux à notre invitation. Nous avions une inquiétude, mon épouse et moi, comme d'ailleurs vous. Quelle est cette inquiétude? Que Dame la pluie, dans sa prostitution, puisse perturber ces moments merveilleux. Mais c'était sans compter avec celui qui est le maître des temps et des circonstances. Oh, il a tout fait. Le côté positif, c'est que cette pluie a apporté le rafraîchissement. Vous voyez, aujourd'hui, je ne vois pas les dames. Voilà, rares sont celles qui essayent un peu de me saluer. Que Dieu soit béni, alléluia. Comme la Bible nous dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Nous voici donc à la dernière soirée de notre séminaire intitulé « Église en danger, l'esprit de Bélial ». Depuis la première soirée, eh bien, le Seigneur est en train de nous instruire concernant le danger qui a toujours guetté son Église depuis qu'il a bâti, depuis qu'il est à l'œuvre sur cette terre. Eh bien, cet esprit essaye par tous les moyens de déstabiliser l'œuvre de Dieu parmi son peuple. Depuis, cet esprit essaye, rôde, mes amis, comme un lion rugissant, cherchant par tous les moyens à nous distraire, à nous influencer, à nous déstabiliser, à créer un climat immoral autour de nous, un climat qui favorise le relâchement des mœurs, un climat qui favorise, mes amis, l'immoralité, la fornication, la débauche, mais aussi un climat qui amène certains qui sont tombés sous son emprise, eh bien, à verser dans le mépris vis-à-vis de tous ceux et de toutes celles que le Seigneur a appelés. C'est donc un esprit que nous devons absolument combattre. C'est un esprit qui n'a pas attendu que le Seigneur se mette à bâtir son Église pour qu'enfin il se manifeste. Nous le trouvons déjà dans l'Ancien Testament, avec le peuple de l'Ancienne Alliance, et nous avons vu quelques passages qui nous ont montré, qui nous montrent une fois de plus, comment cet esprit très sournois, très subtil, eh bien, est arrivé à distraire le peuple de Dieu. Nous avons vu sa première manifestation dans l'entourage de Saül, le premier chef, le premier conducteur d'Israël. Aussitôt que Dieu a fait reposer son esprit sur Saül, après avoir changé, métamorphosé, transfiguré cet homme par son esprit, après lui avoir donné l'onction de son esprit pour qu'il soit en même, pour qu'il acquiert les capacités, les ressources nécessaires pour pouvoir présider aux destinées de son peuple, pour pouvoir diriger Israël, eh bien, dans la volonté du Seigneur, eh bien, après avoir agi de cette manière, nous voyons tout de suite Bélial, eh bien, se mettre à l'œuvre autour de Saül, en suscitant certains hommes, en les manipulant, en les remplissant de sa pensée funeste, de sa pensée macabre, de sa pensée immorale. Eh bien, il a influencé ces gens-là qui ont versé dans le mépris vis-à-vis de Saül. Et aujourd'hui encore, mes amis, comme nous l'avons vu, nous devons faire attention quant à la personne avec laquelle nous devons marcher, que ce soit dans le cadre du ministère, nous devons toujours être très, très alertes, très attentifs dans le choix de la personne, dans le choix du ministère avec lequel nous devrions nous allier pour pouvoir travailler, créer des synergies qui nous permettent de faire avancer l'œuvre de Dieu. Autrement, nous risquons d'aller avec des gens, des espèces de ramassis, tout en ayant un ministère qui pourrait devenir de véritables obstacles à notre épanouissement personnel, mais aussi mais aussi un obstacle pour l'épanouissement de notre ministère. Des gens qui seront là toujours pour voir le mal. Des gens qui seront là pour remettre en question notre appel. C'est ce qu'ils ont fait avec Saül. Qui est-il, ce fils de Benjaminite? Lui, il appartient à une petite tribu. Est-il capable de nous sauver? Est-il capable de nous conduire? Quelle expérience a-t-il? Nous connaissons son père, nous connaissons son clan, son ethnie. Comment se fait-il que celui qui reçoit l'onction, etc., eh bien, de telles attitudes, nous le trouvons encore aujourd'hui. Combien de ministères ont été détruits? Tout simplement parce qu'il y a eu au départ des mauvais choix qui ont été faits. Choix au niveau des individus, des personnes avec lesquelles on devait travailler. Et ces gens, dans un premier temps, nous ont donné l'impression d'être des hommes et des femmes très spirituels, qui aiment le Seigneur, prêts à aller avec nous, la main dans la main, pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Mais avec le temps, il s'est avéré que c'était des gens faux, hypocrites, des gens simplement que l'ennemi avait suscité pour nous distraire. Et puis ensuite, nous avons vu que non seulement cet esprit frappe dans l'entourage de tous ceux que Dieu a appelés, mais il s'attaque à ces gens-là, à tous ceux qui sont appelés et établis dans le ministère, quelle que soit sa nature. C'est ainsi que nous avons vu avec le fils du souverain sacrificateur Élie, nous sommes à l'époque du prophète Samuel, eh bien nous voyons, et nous l'avons vu dans 1 Samuel chapitre 2, comment les fils d'Élie, Ophni et Phinéas, eh bien se sont comportés en hommes insensés. Comment ils ont fait preuve des gens sans morale, des gens qui ont piétiné le nom du Seigneur, qui ont craché sur le sacerdoce, voyez-vous? Eh bien, une fois de plus, la Bible nous dit concernant ces fils d'Élie, qui étaient cependant des sacrificateurs, de par leur appartenance à la tribu de Judas, plutôt de Lévi, eh bien combien c'était des gens qui ne connaissaient pas Dieu. Et en même temps, des gens qui étaient les fils de Bélial. Fils de Bélial, qui vont noircir le tableau de la sacrificature à l'époque de Samuel. Un tableau plus que sombre, un tableau terrible, voyez-vous. Et là, nous avons vu une fois de plus comment cet esprit frappe en essayant de créer un climat malsain qui favorise l'immoralité, qui favorise la débauche. Car il nous est dit que ces sacrificateurs forniquaient, couchaient avec des femmes devant la maison du Seigneur. Comment est-ce possible, mes amis? Eh oui, lorsque cet esprit frappe, eh bien tout devient possible. C'est ainsi qu'on a vu des gens autrefois remplis du Saint-Esprit, autrefois servaient le Seigneur de tout leur cœur, des gens utilisés puissamment par le Seigneur, mais qui un jour se sont retrouvés en train de se vautrer dans des choses à peine nommables, en train de mener une vie abominable, une vie de débauche, une vie terrible. Oui, ça c'est l'action de Bélial. Et encore aujourd'hui, mes amis, nous devons toujours faire très attention, être extrêmement prudents, car il rôde. Dans ce domaine-là, aucune expérience ne pourrait vous venir en aide. Dans ce domaine-là, le nombre d'années de conversion est 20. Dans ce domaine-là, c'est la prudence, la sagesse et le fait de s'appuyer sur le Seigneur. Alléluia. Car c'est un esprit très subtil, mes amis, qui nous connaît, qui connaît bien nos faiblesses, qui sait exactement où il faut mettre le doigt pour que cela nous fasse mal, qui sait exactement comment nous avoir. Voyez-vous, c'est un esprit de perversité qui pervertit tout ce qui vient de Dieu. Il a perverti le sacerdoce à l'époque. Au lieu que ça soit un moyen de servir le Seigneur et de servir le peuple, Ophni et Phinéas ont fait du service du ministère, du sacerdoce, une occasion de satisfaire leur cupidité. Une occasion de satisfaire leur ego pervers pour se livrer à toutes sortes d'abominations. Voyez-vous? Et c'est ainsi que ces deux fils d'Élie, sous l'influence de cet esprit démoniaque, sous l'influence de cet esprit pervers, impur, eh bien, ont été amenés à poser des actes ignobles, des actes ignominieuses, des actes infâmes, intolérables, dans la maison même du Seigneur, avec ceux qui venaient pour chercher Dieu. Non seulement ça, dans leur cupidité, dans leur rapacité, ils ont retourné ce qui appartenait au Seigneur. Voyez-vous, ils s'en sont accaparés. Les gens venaient pour apporter leurs sacrifices, leurs offrandes. Et ils prenaient avant même que la part du Seigneur puisse être brûlée sur l'autel. Eh bien, ils prenaient. Nous l'avons vu. Leurs serviteurs, ceux qui étaient à leur solde, avaient une fourchette à combien de doigts? Trois dents plutôt. Trois dents. Donc quand ça rentrait dans la viande, ça prenait. Aujourd'hui, mes amis, cet esprit frappe encore. Essaye de susciter la convoitise, la cupidité dans le cœur de ceux que le Seigneur a appelés. Voyez-vous? De ceux que le Seigneur a mis à part. C'est ainsi qu'au nom de la bénédiction, beaucoup, eh bien, par un système, je ne sais, spirituel, entre guillemets, eh bien, ils arrivent à détourner des fonds qui appartiennent au Seigneur. Combien on fait des appels dans des églises pour que tel ou tel argent serve à quelque chose, et puis un jour, cet argent a pris une direction inconnue. C'est un esprit, mes amis, qui vient cajoler notre ego, qui vient nous encenser. Voyez-vous, nous dire, mais après tout, nous sommes des sacrificateurs, tout nous revient. Ça serait tant facile, hein? Esprit impur, de débauche, de fornication, de relâchement dans les mœurs. Et nous allons continuer avec cette même pensée. Nous allons voir comment cet esprit a pu contaminer, si vous voulez, la tribu des Benjaminites, la tribu des Benjamins. Comment il avait préparé ce peuple, comment ce peuple était devenu quelque part un terreau où il pouvait semer ses pensées perverses, semer de choses terribles. Oui. Comment il est arrivé à ça? Comment la tribu de Benjamin se retrouvait sous la manipulation, sous l'influence de cet esprit de Bélial? Car comme vous le savez, cet esprit frappe ou a frappé non seulement dans l'ancienne alliance, je l'ai dit, mais aussi dans la nouvelle alliance, autour de l'Église. C'est ainsi que Paul écrivant aux Corinthiens, au chapitre, dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 5, verset 1er, Paul s'étonne. Paul dit aux Corinthiens, il leur dit ceci, mais on entend parler constamment d'inconduite sexuelle parmi vous. Et une inconduite telle qu'on n'en trouve même pas chez les païens. Vous vous rendez compte? À telle enseigne qu'un de vous vit avec la femme de son père. Vous vous rendez compte? Terrible. Hein? Le terme grec utilisé par Paul est traduit par inconduite sexuelle dans certaines versions ou par immoralité. Eh bien, c'est le terme pornéa, qui a donc donné en français la porn. Quel fléau, mes amis, quel fléau. Le même Paul écrivant aux Thessaloniciens leur dira, c'est que Dieu attend de vous, la volonté de Dieu, 1 Thessaloniciens chapitre 4, c'est que vous sachiez posséder votre corps dans la sainteté et que vous vous éloignez de l'inconduite, c'est le même mot. Que vous vous éloignez de la pornéa, de la fornication. Car quand on parle de l'inconduite, on diminue un peu la force de ce mot. C'est un mot difficile, dur à entendre. Cependant, la parole de Dieu l'utilise. Car dans ces temps que la parole de Dieu appelle les derniers temps, cet esprit frappe de plus en plus. C'est ainsi que dans Juges, avant même l'instauration de la monarchie, encore parmi la tribu de Benjamin. C'est pourquoi, vous comprenez pourquoi je vous ai dit qu'il avait déjà préparé le terrain. Dans Juges chapitre 19, nous avons là une histoire pathétique, une histoire terrible, qui nous montre une fois de plus, mes amis, comment le peuple de Dieu était tombé plus bas que la bête. Comment nous voyons la déchéance de ce peuple à cette époque-là, parmi, une fois de plus, les Benjaminites. Et Saül n'était-il pas des Benjamins? Les fils de Bélial, qu'il avait méprisé, qui avait quitté Silo pour l'accompagner à Gibéa, n'étaient-ils pas ses frères de la même tribu? Et une fois de plus, il est question de cette tribu. Et cette fois-ci, comme les autres fois, cette tribu va s'illustrer par un comportement, par une conduite incroyable, mes amis, infâme, avilissante. De quoi s'agit-il? C'est l'histoire d'un Lévite qui quitte sa région avec sa concubine ou sa femme, son serviteur et leur animal, leur âne, et les voilà en route. Et il se trouve qu'ils arrivent à Gibéa. C'était une des villes des Benjaminites, c'est-à-dire dans la tribu des Benjamins. Et quand ils arrivent, c'est le soir, ils ne savent plus où aller. Ils vont à la place de la ville, de la cité, dans l'espoir que quelqu'un souffrant d'hospitalité, entre guillemets, puisse leur offrir un lieu où passer la nuit. Et il se trouve qu'un vieillard est passé par là. Et ce vieillard, touché par ce Lévite avec sa femme et son serviteur, qui ne savait où aller, il leur a proposé de les accueillir dans sa maison. Voyez? Et les voilà qui suivent le vieillard jusque dans sa maison. Nous sommes à Gibéa, une des grandes villes de Benjamin. Et quand ils arrivent, le vieillard honore ses hôtes, ses invités plutôt. Ils se réjouissent, ils leur donnent à manger, etc. Mais quelque temps après, la parole de Dieu nous apprend que quelques vauriens, quelques fils de Bélial, quelques personnes manipulées par cet esprit, ayant vu ce qui s'est passé, qu'un homme avec sa femme, un serviteur, venait d'être accueilli chez ce vieillard-là, sont allés chez le vieillard, ont frappé à la porte. Et que vont-ils demander? Eh bien, ils vont demander ce que les gens de Sodome avaient demandé lorsque Lot avait accueilli les deux anges sous la forme humaine. C'est exactement la même chose. Encore une fois, mes amis, vous voyez comment cet esprit peut frapper. Et il nous est dit, au verset 22 du chapitre 19, c'était juste le contexte pour vous permettre de voir, enfin de savoir un peu comment l'histoire se déroule. Au verset 22, il nous est dit, du chapitre 19 des Juges, pendant qu'ils étaient à se réjouir, voici que des hommes de la ville, des fils de Bélial, entourèrent la maison, frappèrent à coups répétés à la porte et dirent au vieillard, qui était le maître de la maison, « Fais sortir l'homme qui est entré chez toi pour que nous le connaissions. » Le verbe « connaître » ici est en rapport avec l'expérience sexuelle. Vous vous rendez compte? Ce n'est pas connaître dans le sens « Ouh, bonjour, nice to meet you. » Moi, c'est celle, telle, et toi? Oh, moi, c'est... Non. Se connaître dans le sens d'entrer en intimité. Donc, ils demandent à ceux qu'on leur livre, eh bien, se lévite là pour... Et c'est d'ailleurs, ce mot-là est entré dans le langage courant pour le sodomiser. Quelle perversion! Quelle infamie! Quel déshonneur, mes amis! Pour que nous le connaissions. Verset 23. Le maître de la maison sortit vers eux et leur dit, « Non, mes frères, ne faites pas le mal, je vous en prie. Puisque cet homme est entré dans ma maison, ne commettez pas cette turpitude, ne commettez pas cette insanité, cette action infâme ou cette infamie. Ne commettez pas cela. Voici, ajoute-t-il, ma fille vierge, ainsi que la concubine de cet homme ou l'épouse, on joue un peu sur eux. Ce registre, ma femme, c'est pour vous montrer un peu qu'à cette époque-là, c'était la déchéance. D'ailleurs, il y a une expression qui est presque le refrain du livre de Juges. Eh bien, il nous est dit qu'il n'y avait pas encore de roi en Israël et chacun faisait ce qu'il voulait. Voyez-vous? Donc, il leur propose sa fille et la femme du Lévite. Il dit, je les fais sortir. Faites leur violence, agissez envers elles comme il vous plaira. En d'autres mots, j'accepte que vous puissiez abuser de ma fille, prendre cette femme plutôt que de vous livrer à des actions infâmes, vous homme sur un autre homme, pour que vous vous livriez à une pratique contre nature. C'est une démarche homosexuelle. Le mot est lâché. Envers elle, comme il vous plaira, mais ne commettez pas sur cet homme une telle infamie, une telle insanité. Ces gens ne voulurent pas l'écouter. Vous comprenez? Alors l'homme saisit sa femme et la leur amenant dehors, ils la connurent. Ils connurent cette femme, ils abusèrent d'elle toute la nuit jusqu'au matin. Puis ils la renvoyèrent au lever de l'aurore. Comment est-ce possible? Mes amis, quelle débauche. Vous voyez? L'esprit de Bélial. Une fois de plus dans ses œuvres de débauche. Une fois de plus, mes amis, qui frappent fort. Car l'acte qu'ils vont commettre va entraîner presque l'extermination de cette tribu. Parce que le Lévite, le matin, va trouver sa femme qui avait été abusée par ces hommes-là, manipulés par l'esprit de Bélial. Ils se sont livrés à toutes sortes de choses honteuses, de choses avilissantes sur cette femme. Ils l'ont laissée presque épuisée toute la nuit. Et le lendemain, lorsque le Lévite voit cette femme, eh bien, il ne peut pas supporter cela. Il va l'achever. C'est terrible. Vous savez, la Bible nous donne la vraie version. C'est pour vous dire que le simple fait d'appartenir au peuple d'Israël ne suffisait pas. Il était tellement choqué, humilié par ce qu'on venait de faire à sa femme, il n'a pas supporté cet opprobre. Il a tué sa femme, il l'a coupé en morceaux. Quelle horreur! Il a envoyé les différents morceaux de son épouse à toutes les tribus. Quand cette information est arrivée à toutes les tribus, mes amis, toutes les tribus ont réagi. Elle dit, nous n'avons jamais vu pareil. Qui a fait ça? Il va y avoir une coalition de toutes les tribus contre la tribu de Benjamin. Et si vous lisez la suite, eh bien vous allez voir, mes amis, comment les Benjaminites vont payer très cher ce crime-là. Vous voyez, mes amis, le péché, eh bien, produit toujours des conséquences terribles. Et il est très prolifique. Ils ont cru faire le malin. L'esprit les a manipulés. Mais en les manipulant, l'esprit a attiré sur eux la destruction. C'est d'ailleurs un des sens de Bélial. Voyez-vous, c'est la destruction comme nous le verrons dans un des passages. Il a apporté la destruction. C'est ce qu'il a toujours cherché, mes amis. S'il essaye de frapper d'une manière ou d'une autre, eh bien, c'est toujours dans le but de détruire l'homme, dans le but de détruire le corps du Christ. Voilà pourquoi Jésus, s'adressant aux sept églises d'Asie, eh bien, il les a mises en garde contre toutes sortes de dangers. Car déjà à cette époque, cet esprit de Bélial travaillait déjà au travers de cette secte obscure que les Nicolaïtes, avec leur relâchement dans le mœurs, avec leur conduite libertine et libertaire, voyez-vous, avec toutes sortes de faux enseignements, des enseignements spéculatifs, cet esprit agissait déjà. Quel drame! Mes amis, cet esprit-là est un esprit dangereux. Je disais, il a aveuglé ces vauriens, ces gens sans morale. Il a manipulé ces hommes-là pour les amener à commettre l'infamie. Il voulait avoir des rapports sexuels avec le Lévite. Vous vous rendez compte? Quelle perversion! Quelle déchéance! Vous voyez? Ils étaient prêts à se lancer dans des pratiques contre nature, mes amis. Mais le vieillard n'a pas pu supporter cela. Il a dit non, je préférerais même que vous puissiez abuser de ma fille plutôt que de vous voir commettre l'infamie dans Gibéa. Voyez, même en ayant eu ces expériences avec cette femme, ils ont quand même commis quelque chose de terrible pour lequel ils vont le payer très cher. Il y a quelque temps d'ici, il y a des statistiques, des études qui ont été menées aux États-Unis en milieu chrétien, écoutez-moi bien, en milieu chrétien, concernant la pornographie. Il s'est avéré que, en milieu chrétien, hélas, beaucoup d'hommes et de femmes se plaisaient à regarder toutes ces images scabreuses, ces images obscènes, ces images dégradantes, tous les âges, à partir des ados. Je ne parle pas de gens du monde. Que les gens du monde regardent ces genres de choses, ces livres, ces genres de pratiques, eh bien, il ne faut que reproduire ce que leur maître leur demande, oui ou non. Ce n'est pas étonnant d'entendre un chien aboyer. En quoi c'est étonnant? Voyez, vous n'allez pas vous en prendre à un chien parce qu'il aboie, puisque vous aurez aimé qu'il puisse chanter « Dieu est bon ». C'est dans sa nature. Tu as beau mettre la musique « Dieu est bon », tu as beau mettre, eh bien, l'extrait de la louange que notre frère Brett a conduite ici, où notre frère Dido, avec toute la chorale, bien enregistrée, mettre la radio, ou je ne sais pas, la cassette à fond, à côté d'un chien, il pourra peut-être bouger simplement la tête, parce que ces décibels de plus en plus élevés lui feront mal, peut-être aux oreilles, mais jamais il ne pourra chanter. Voyez-vous? Que les gens du monde se livrent à ce genre de pratiques, mes amis, eh bien, ça fait partie de la nature même du monde. Car la Bible nous dit que le monde entier gît dans le malin. Voyez-vous? Mais qu'on retrouve cela parmi les gens qui se réclament du Christ, mes amis, c'est quelque chose de terrible. Voyez-vous? Et les pasteurs, et les responsables d'église, et tout le monde, d'après ces statistiques-là, pour dire, mes amis, que ce fléau n'épargne personne. Et dans ce temps de la fin, nous devons faire très attention. Voyez? Car aujourd'hui, avec Internet, eh bien, tout devient possible. Vous pouvez trouver des très bonnes choses sur Internet. Aller chercher des messages, des cassettes, commander musique chrétienne, etc. C'est une très bonne chose. Vous pouvez parler, vous pouvez communiquer avec des gens qui sont à des milliers de kilomètres d'ici. C'est une très très bonne chose. Mais nous devons faire très attention. Car sur le même Internet, il y a aussi des choses terribles. N'oubliez pas, mes amis, que nous sommes le temple de Dieu. Que l'Esprit de Dieu habite en nous. Et ce que Dieu attend de nous, c'est que nous ne puissions pas attrister son esprit. Ne dis pas, oui, mais je regarde, je ne le fais pas. Voyez-vous? Ce sont des choses qui souillent la pensée. Et ça a des conséquences, mes amis. Ça a des conséquences. Combien ont divorcé à cause de ça? Combien de jeunes gens, eh bien, se retrouvent aujourd'hui avec toutes sortes de problèmes psychologiques ou même psychiatrique, à cause de cela. J'avais suivi un documentaire là-dessus, sur les dégâts de la pornographie parmi les ados. Vous voyez? À force de manger toutes ces images obscènes, eh bien c'est comme un disque dur, hein? Qui encaisse, et après il y a quoi? Je ne suis pas informaticien. Lorsque le disque dur est plein, il a une capacité limitée, oui ou non? Il faudra faire quoi? Alors on a vu certains jeunes développer une attitude de rejet vis-à-vis de la sexualité. C'est ainsi qu'il y en a de garçons, de jeunes gens qui se tournent vers les hommes comme eux, de jeunes filles qui se tournent vers de filles comme eux, comme étant de choses infâmes, se livrant des pratiques contre nature. Mes amis, cet esprit-là qui est à la base de la pornéa, eh bien c'est Bélial. S'il veut nous humilier, il n'ira pas loin. Il va essayer de déstabiliser notre environnement. Nous devons faire preuve de prudence. Nous devons avoir une certaine discipline, mon frère et ma sœur. Tu ne peux pas changer l'environnement autour de nous, oui ou non? Tu ne peux pas demander aux gens d'être comme toi tu le veux. Eh bien, puisque tu ne peux pas changer l'environnement, alors change ton attitude vis-à-vis de l'environnement. Oui. Sois prudent, voyez-vous. C'est donc un esprit de débauche, voyez, qui entraîne même les gens dans toutes ces pratiques d'homosexualité, voyez-vous. Et quand je parle de l'homosexualité, je parle de la pratique. Parce que je sais que dans certains pays, il y en a qui sont tombés dans l'autre extrême. Où on tue les gens simplement parce qu'ils sont homosexuels. Non. Nous devons aimer les homosexuels. Et si tu es là ce soir, je suis prêt à t'embrasser et à te dire que Jésus t'aime. Amen. Mais nous devons condamner cette pratique. Oui, dans certains pays, on a légalisé cela. Mais nous ne marchons pas selon ce que les uns et les autres pensent. Nous ne marchons pas selon l'opinion majoritaire. Non. Nous ne marchons pas selon l'opinion démocratique. Nous marchons selon la parole de Dieu. Peu importe, mes amis, qu'on nous rejette, eh bien, ils ont rejeté Jésus. Car aujourd'hui, ça devient même difficile dans certains pays, comme la Belgique, de dénoncer l'homosexualité de peur d'être taxé d'homophobe et même de te retrouver devant un tribunal. Ouais. On pénalise cela. Tu peux faire la prison, même si c'est toujours difficile d'établir, de dire exactement, oui, pour certains, il y a des actes de brutalité, de violence que nous condamnons. On a vu des hétérosexuels s'attaquer à des homosexuels et tuer. Eh bien, Dieu aime l'humanité tout entière, car Dieu a tant aimé. Ce qu'il nous demande, c'est d'aimer ces gens-là et de leur faire prendre conscience que le choix, puisqu'ils parlent d'orientation sexuelle, peu importe les motivations, peu importe la raison derrière, mais c'est quelque chose qui va à l'encontre de ce que Dieu a établi. Bélial, mes amis, c'est donc un esprit de débauche, comme avec les fils d'Élie, comme ici dans le livre des Juges. C'est encore avec la tribu de Benjamin, voyez-vous. Et cette histoire se passe avant celle de Saül. Donc ça veut dire qu'il y avait déjà un terrain bien préparé. Voyez-vous, ces choses-là sont contagieuses. C'est là que nous devons faire très attention. Nous devons laisser nos pensées, eh bien, rester sous la direction, sous la conduite, sous l'autorité de la parole de Dieu. Nous devons, mes amis, passer plus de temps avec la Bible qu'avec autre chose. Entendre la parole de Dieu. C'est dans la mesure où nous nous exposerons à la parole de Dieu que cette parole nous débarrassera de toute souillure au niveau de la pensée. C'est ainsi que Paul dit, soyez transformés, soyez métamorphosés par le renouvellement de votre intelligence. Tout se passe là. Voyez? Comme Martin Luther l'a dit, ou lui ou Jean Calvin, je ne me souviens plus très bien, en tout cas, un réformateur a dit, on ne peut pas empêcher un oiseau de nicher, On ne peut pas empêcher un oiseau de voler au-dessus de votre tête, mais vous pouvez empêcher un oiseau de nicher sur votre tête. On ne peut pas empêcher aux pensées mauvaises de vous visiter. Non. Tant que vous êtes en vie, eh bien, vous serez toujours exposé à des mauvaises pensées. Alors, quelquefois, c'est parce que nous-mêmes, par manque de sagesse, de prudence, nous nous exposons. Nous allons dans des lieux, dans des endroits où il y a comme des générateurs de ces mauvaises pensées-là. Voyez ? Vous allez dans des endroits où les gens fument, se droguent, il y en a qui sont presque nus et tout ça. Et vous, ah, Seigneur, gardez-moi. Seigneur, gardez-moi. Seigneur, gardez-moi. Et vous, gardez-moi. Au nom de Jésus, j'ai lu. Non, ça ne marche pas comme ça. Partez. Vous n'êtes pas là où vous devriez être. Eux, ils sont dans leur milieu. Les poissons ne sont à l'aise que dans l'eau. Oui ou non? Même s'ils n'ont pas inventé la formule chimique de l'eau, ça ne les empêche pas d'être à l'aise dans l'eau. Voyez? C'est l'homme qui a inventé ça. Oui ou non? Ben, l'homme, pour aller dans l'eau, il peut y aller pendant un temps et puis il en sort tout de suite, à moins d'avoir un équipement spécial qui lui assure de l'oxygène, car sans oxygène, l'homme meurt. Mais le poisson, ils sont là, les tilapias et tout ça, hein, à l'aise. Et pourtant, ils n'ont pas inventé la formule chimique H2O. Hein. Vous connaissez ça, non? Ouais. De même, ces gens-là, même s'ils ne connaissent rien et tout ça, mais ils sont à l'aise. C'est comme des poissons. Il y en a qui sont presque en costume d'Adam ou d'Ève, mais ils sont à l'aise. Ils disent des insanités, oh, ils blasphèment, ils profanent. Et toi, tu es là à l'aise. Elle dit, non, non, nous devons les évangéliser. Mon frère. Toi, tu vas pour les évangéliser. Et ils risquent de te mondaniser. Fais passez-moi l'expression. Vous voyez, c'est ça. C'est ça, il faut faire très attention. Il y en a qui se sont retrouvés à culbuter dans le péché, hein, à commettre des choses, alors qu'au départ, ils étaient de bonne foi. Voyez? Et quelquefois, le Seigneur nous aide, lorsque au début de notre foi, quelquefois, nous sommes naïfs. Moi, j'étais, hein, je voulais aller partout prêcher. Heureusement, Dieu voyait ma sincérité. Je vous avais dit, hein, l'autre fois, j'allais, il y avait des filles prostituées qui fréquentaient les Européens dans des casinos et tout ça. Moi, j'allais leur prêcher la parole de Dieu. Et je me souviens, eh oui, c'était un risque. Je me souviens, je leur parlais et je voyais une se lever, aller dans la chambre. Et quand elle revenait, et je comprenais qu'elles allaient se droguer. Oui. Mais moi, je prêchais. J'étais sincère. Une fois, je m'étais embarqué VI. Le pasteur VI. Après, il m'a dit, mon frère, nous devons faire attention. Il dit, non, 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 ces histoires-là, mais c'est extraordinaire, je vous l'avais dit. Peut-être qu'elle est là ce soir. Il y a quelque temps, un de nos pasteurs reçoit un coup de fil. Eh bien, une de ces filles-là, à l'époque, qui se droguait pendant que je leur parlais du Seigneur, qui à l'époque était déjà, je crois qu'il vivait avec un Italien, il avait déjà un enfant, eh bien, appelé pour dire, j'ai vu le pasteur Bondo, je bénis le Seigneur. Cet homme, il lui a tout expliqué, Katajung est là, hein? Cet homme venait nous prêcher la parole pendant qu'on se droguait. Mais il a persévéré. Aujourd'hui, je suis en Christ. J'aimerais le rencontrer. Et je m'occupe même. Et je suis très actif, je crois qu'il s'occupe de tous ces enfants, de la rue, Saint-Chéguet, etc. Vous voyez? Mais ne prenez pas le risque. Ne dites pas, oui, mais le pasteur est passé par là, attention. Moi, j'étais naïf. Bon, avec le temps, c'est comme un enfant. Hein? Un enfant, bon, le feu est là et tout ça, mais il apprend à marcher. Et puis le papa ou la maman est tout le temps derrière. Mais il y va, il y va. Dieu prend soin. Et puis à un moment, on grandit. On n'a plus besoin, quand il y a le feu... Ben, l'enfant a déjà 15 ans, ben, le papa... Maintenant, si l'enfant, lui, À un moment, je ne sais par quel concours de circonstances, il se retrouve comme dans le vape, la tête dans le nuage, il va marcher dans le feu, mais il va se brûler. Donc, cet esprit-là, mes amis, est toujours à l'œuvre. C'est à nous d'être extrêmement prudents. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'en Christ, nous avons la victoire. Alléluia. Il y a tant à dire, mais c'est parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Il y a, par exemple, une autre œuvre de cet esprit démoniaque, Bélial, eh bien, que nous trouvons déjà, enfin, c'est une mise en garde, mais concernant quelque chose de terrible, eh bien, Dieu lui-même, dans le livre de Deutéronome, avait mis en garde son peuple. Dans Deutéronome 13, versets 13 à 16, eh bien, la Bible nous dit, si des hommes, c'est-à-dire des fils de Bélial, sont sortis de chez toi et ont excité, poussé les habitants à l'idolâtrie. Deutéronome 13, versets 13 à 16, on n'a pas le temps de tout lire. Hein. Voyez 13. Si tu entends dire au sujet de l'une des villes de l'Éternel, etc., verset 14, des fils de Bélial sont sortis de chez toi et ont excité et poussé les habitants de leur ville en disant, allons rendre un culte à d'autres dieux, de dieux que vous ne connaissez pas, eh bien tu procéderas à une enquête, etc. Voyez? Donc c'est un esprit qui pousse à l'idolâtrie. Et quand nous parlons de l'idolâtrie, nous ne voyons pas simplement la pratique qui consiste à adorer, à offrir un culte à des images inertes, à des statues, voyez-vous? Mais il y a aussi des images vivantes, oui ou non? On peut idolâtrer un homme. On peut finir par idolâtrer son pasteur, par idolâtrer le prophète du coin, voyez-vous? Donc, quand nous parlons d'idolâtrie, d'ailleurs, littéralement, l'étymologie grecque, c'est que c'est eidolon, donc image et culte, c'est le culte de l'image, c'est ça l'idolâtrie. Et cette image-là peut être soit inerte, voilà une image qu'on a dessinée et puis on en fait un dieu devant laquelle on se prosterne, ça peut être une image taillée en pierre, un morceau de bois sculpté qui devient l'objet d'un culte quelconque. C'est de l'idolâtrie, la parole de Dieu condamne cela, oui ou non? Avoir, oh non, j'ai l'image de Saint Raphaël ou Saint Joseph dans ma poche. Saint Antoine ou Saint Christophe, le patron, celui qui fait éviter les accidents, enfin, soi-disant. Ouais. Il y en a qui ont une petite image de Saint Christophe, je ne sais pas à quelle période il a vécu, pour ne pas connaître des accidents. Mais avec nos routes accidentogènes ici, image de Saint Christophe ou pas, c'est de l'idolâtrie. Mais il y a aussi une forme d'idolâtrie. La deuxième, c'est que cette image est vivante. C'est-à-dire, on fait d'un homme son idole. C'est-à-dire, à qui on voue un culte. Voyez? Oui, ce n'est pas de manière, formelle en disant, voilà, je t'adore, oh, non. C'est très sournois, c'est très subtil. Lorsqu'on accepte de dépendre totalement, entièrement d'un pasteur, on ne peut rien faire sans se référer à lui. Je peux comprendre si vous êtes encore bébé dans la foi. Oui ou non? Comme un enfant qui vient de naître, il a besoin qu'on prenne soin de lui. Voyez-vous, l'enfant, quand il en fait ses besoins, il n'a pas besoin. Ah, donnez-moi le papier hygiénique et tout ça, c'est la maman qui fait tout. Ou même le papa qui fait tout. Oui ou non? Puisque l'enfant est bébé. N'est-ce pas? Mais après un certain âge, si cet enfant a toujours besoin qu'on l'accompagne à la toilette, qu'on puisse l'essuyer, c'est qu'il y a un problème. Oui ou non? C'est qu'il y a un problème. Car normalement, à un certain âge, on le dit, l'enfant est propre. C'est-à-dire, quand il a besoin, il sait où aller. Oui. Maintenant, dépendre entièrement, totalement, d'un prophète. On ne peut rien faire sans lui avoir envoyé un SMS pour lui demander si on doit le faire. Et tant que le prophète ou la prophétesse n'a pas répondu, eh bien on ne s'est fait, ah, maman prophétesse, djaga djaga Seigneur, touche-le, touche laquelle me parle. Eh bien ça c'est une forme d'idolâtrie. Comment votre vie peut dépendre d'une prophétesse, qu'elle soit big mama ou quoi là? Ça reste une femme. Ça, c'est aussi une forme d'idolâtrie. On ne peut rien faire, on attend toujours la vision de tel ou tel autre frère de l'intercession. Car lui, il voit comme sur un écran de télévision. Vous avez déjà entendu ce genre de comparaison? Il dit, lui avec Dieu, c'est comme on le voit là. Tac, 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 ok. Voilà, Dieu m'a dit, ta, 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 ta. À ce moment-là, on va le faire. Mais ça conduit même à la paresse. Dieu est contre cette façon de faire. Car Dieu voudrait que nous grandissions, que nous devenions matures, que nous sachions prendre des décisions de manière rationnelle, avec une intelligence renouvelée. Alléluia. Les gens peuvent nous conseiller. Nos conducteurs spirituels peuvent nous assister. Mais nous ne devrions pas compter sur eux. 20 ans après, on est toujours là. Papa, pasteur, j'ai besoin de prier. Est-ce que Dieu ne t'a pas parlé? Ou alors d'autres sont très malins. Ils ont une intelligence de Bélial. Vous arrivez, vous posez, mais vous avez rêvé de quoi? Ils sont très... Ah, et comme ici, les gens sont très... Dieu parle en songe, attention. Mais n'est pas dit qu'à chaque fois que vous rêvez, Dieu vous parle. À chaque fois que vous avez des cauchemars, oh, les démons m'ont attaqué. Vous rentrez tard. Vous mangez 4 chikwang. Donc vous mangez très lourd. Vous allez au lit, vous êtes agité, l'estomac vous fait mal. Ça se transforme en cauchemar. Vous voyez des renards qui courent après vous et tout ça. Le lendemain, Seigneur, Dieu, le diable m'a attaqué. Oh, combien de fois nous le chargeons faussement. On manque d'hygiène de vie. Et puis tout le temps, ah non, non, nous devons faire attention. J'ai rêvé de ceci, c'est bien. Mais on rêve de tout. Vous pouvez rêver même que vous êtes aux États-Unis. Il ne faut pas croire que oui, c'est Dieu qui vous dit que vous irez. Vous rêvez que vous êtes aux États-Unis parce que vous avez vu des images des États-Unis. Ouais. La preuve. La preuve. La preuve. Qui a déjà rêvé qu'il est sur Mars? Qui a rêvé qu'il est sur la planète Jupiter? Il se balade sur Jupiter. Pourquoi? Donc vous voyez, mes amis, quelquefois ce sont les histoires de la vie quotidienne enfouies dans notre subconscient qui reviennent à notre conscience sous forme de rêves. Et nous, on tire tout de suite la corde. Ah, le diable m'a attaqué. C'est vrai que Dieu peut parler aussi en vision, en songe, en rêve. Mais comme, aussi, il peut me parler. Vous avez, moi, j'ai des expériences. Vous êtes en train de méditer, paf, c'est le verset qu'il vous faut. Et Dieu vous parle. Mais vous ne pouvez pas transformer cette façon de faire comme étant la seule façon dont le Saint-Esprit vous conduit. Vous prenez la Bible. Oh Seigneur, conduis-moi. Au nom de Jésus, conduis-moi. Vous ouvrez. Et on dit, va et tue-toi. Vous faites quoi? Vous faites quoi? Ça arrive. Ou alors, vous tombez sur le prophète à qui Dieu avait demandé de manger ses excréments. Alors vous allez aller dans la cuve de toilette. Ah oui, c'est ça, moi. Ou le prophète à qui il demandait, va chercher une prostituée. Fais des enfants avec. Ah oui, je sais, je crois qu'il y a certains hommes qui rendraient grâce à Dieu tout de suite. Seigneur, merci, tu m'as parlé. Oui, il faut relativiser, il faut lire le texte avec intelligence. L'ennemi est très subtil. Nous avançons, alléluia. Eh bien, voilà comment cet esprit se manifeste. On n'a pas le temps. Il s'est manifesté à l'époque de Naboth, à l'époque du roi Acab et Jézabel. Eh bien, le roi Acab a convoité la vigne de Naboth, 1 roi 21, et il lui a demandé de lui céder cette vigne parce que la vigne était juste à côté du palais royal. Voyez? Il dit, mais si tu ne veux pas, eh bien, je pourrais te donner l'équivalent en argent et tout ça. Il a dit non. Pourquoi avait-il dit non? C'est parce qu'il y a une loi. Il y a une loi dans la parole de Dieu, nombre 36, 7 à 9, qui interdisait formellement aux tribus d'Israël, eh bien, de vendre ou de donner leur patrimoine. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un appartenait à la tribu de Juda, avec son patrimoine, il ne pouvait pas le céder à quelqu'un qui appartenait à une autre tribu. C'était une loi. Naboth a refusé parce qu'il voulait rester attaché à la parole de Dieu. Il a dit, je ne te donnerai pas, je ne te céderai pas l'héritage de mes pères. Ça a brisé cet homme. Tout un roi, il est devenu maussade, triste, la convoitise. Lorsqu'on n'a pas ce qu'on veut, quelquefois on devient irascible, tout ça, malheureux, un visage cadavérique. Sa femme le regarde et dit, mais toi, tu es le roi ou il y a un autre roi dans ce pays? Comment tu as une mine triste comme ça, défaite? Hein? Ah non, j'ai voulu la vigne là. Ah bon, quelle vigne? Celle-là, de Naboth, oui, oui. Mais il m'a dit qu'il ne peut pas donner l'héritage de ses pères. Alors je... Elle a dit, mais comment? C'est quel homme ça? Ça, c'est quel roi? Écoute, moi je vais m'en charger. Bref, elle va prendre le problème. Elle va organiser une combine. Elle va envoyer des gens, dit, bon voilà, convoquer tous les gens, les notables, tout ça. On va jeûner. Voyez? Jeûner, c'est bien, non? Mais la motivation était impure. C'était simplement pour attirer des gens. Faites attention. Oh non, là-bas, on jeûne 40 jours. C'est le jeûne d'Esther ou je ne sais pas, de Judith. Vous voilà. Vous ne savez pas la motivation. Jeûner, ce n'est pas mauvais. Maintenant, on peut le faire. Jeûner, jeûne d'Esther, ça va. Mais ici, Jézabel organise le jeûne. Elle invite les gens. Et puis elle s'arrange. Elle dit, vous invitez aussi Naboth. Et vous allez le mettre à la première place, le pauvre. Il s'est senti honoré. Il y a certains honneurs, certaines places là, c'est pour t'avoir. Voyez, c'est pour t'avoir. Lui, il a répondu, mais pour une fois, le roi organise quelque chose. Je suis avec le notable, moi Naboth. Moi Naboth. Eh bien, ils sont assis, elle s'est arrangée. La Bible nous dit, et devant Naboth, il fallait qu'il y ait deux fils de Bélial en face de lui. Après, pour l'accuser faussement, faire un faux témoignage, je dis, vous savez, nous gênions là, oui, nous l'avons entendu maudire Dieu. Ah bon, Naboth, oui, oui, c'était un hypocrite. On l'a arrêté, il a été lapidé, il a été exécuté pour avoir maudit Dieu. Et ainsi l'homme est parti et le roi Acab a repris ce qui lui appartenait. Mes amis, c'est un esprit qui nous pousse, qui pousse l'Église à vilipender, à dilapider son héritage. Quel est notre héritage? C'est celui que les apôtres de Jésus-Christ nous ont laissé. Il n'y a pas d'autre héritage. Ne faites pas confiance à tous les autres enseignements qui sont venus par après. Oh non, notre prophète a reçu des révélations extra-bibliques. Notre héritage, c'est celui des apôtres et les apôtres de Jésus-Christ. Notre héritage, eh bien, c'est la foi qu'ils nous ont transmise dans la personne de Jésus et dans l'œuvre qu'il a accomplie à la croix de Golgotha. Notre héritage, c'est qu'il n'y a pas de salut en aucun autre. si ce n'est qu'en Jésus-Christ. Notre héritage, c'est celui de la Pentecôte. Alléluia. Le Saint-Esprit qui nous embrase, le Saint-Esprit qui nous baptise, le Saint-Esprit qui nous revêt de sa puissance. Ça, c'est notre héritage. Mais combien de fois cet ennemi que l'esprit de Bélial est arrivé à nous séduire, et petit à petit, nous avons dilapidé ce que nous avions comme héritage, ce que les Vernon nous ont laissé comme héritage, ce que les David ou les Kerson nous ont laissé comme héritage, ce que les Kellan et les autres nous ont laissé comme héritage. Et nous, aujourd'hui, qu'est-ce que nous en faisons? Au nom de la cupidité, eh bien, on est en train de tout vilipender. Bélial. Il frappe. Et pour terminer, encore une fois, il y a toujours des choses à dire. Hein. C'est incroyable. Comme disent les Belges. Hein. Il y a toujours à dire. Hein. Ça nous ramène dans le borinage. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Très rapidement, c'est là que le roi David nous vient en aide. Et son expérience va nous servir. Et comme nous n'aurons pas le temps de prier aujourd'hui, eh bien, le vendredi prochain, le 13, je sais que dans certaines régions du monde, le 13, en plus un vendredi, c'est un jour maudit, mais pour nous, ça sera un jour béni. C'est-à-dire, le vendredi prochain, nous allons prier. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, c'est que David a fait, dans sa prière, dans 1 Samuel, dans 2 Samuel plutôt, verset 22, j'aime beaucoup ce que cet homme dit, et je vais vous dire, c'est ça notre solution contre cet esprit impur, cet esprit de manipulation, cet esprit qui pousse les uns et les autres à commettre des choses infâmes. Qu'est-ce qu'il nous dit? Chapitre 22, 2 Samuel rapidement. C'est dans la prière de David. Là, il nous donne la clé, la solution. Qu'est-ce qu'il nous dit? David adressa à l'Éternel, le premier verset, les paroles de ce cantique, quand l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il l'a délivré de la main de tous ses, parmi ses ennemis, on nomme dans le titre qui? Saül. Donc, mais les autres ennemis, qui étaient-ils? Eh bien, il y avait cet esprit-là. Alors, il commence sa prière. Il dit, l'Éternel est mon roc ou mon rocher, ma forteresse et mon libérateur. Le Dieu qui est mon rocher, où je me réfugie, mon bouclier et la force qui me sauve, ma haute retraite dans ma fuite. Oh, mon sauveur, tu me sauves de la violence. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis sauvé de mes ennemis. Il ne nous dit pas encore, hein, ses ennemis. Et puis maintenant, il commence à l'énumération. Car, le verset 5, car les flots de la mort m'avaient enserré, les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Eh bien, ce qu'on a traduit dans nos versions par torrent de la destruction n'est autre que les torrents de Bélial. Les torrents de Bélial m'ont épouvanté. Bélial s'est acharné sur moi comme un torrent. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, c'est ce qu'il dit. Eh bien, qu'est-ce qu'il dit? Verset 7. Dans ma détresse, j'ai invoqué le Seigneur. Dans ma détresse, j'ai invoqué mon Dieu. Et de son palais, il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu à ses oreilles. Alléluia. Oh, nous avons chanté loué Adonai. Il n'y a que lui qui peut nous donner la victoire sur cet esprit impur. Il n'y a que lui qui peut nous donner la victoire sur cet esprit séducteur. Il n'y a que lui qui peut libérer tous ceux qui sont manipulés par cet esprit. Tous ceux qui ont été aveuglés, dont l'intelligence a été obscurcie par Bélial. Il n'y a que lui et lui seul. Et c'est Dieu-là, Adonai, se manifeste par et au travers de celui qui a donné sa vie à la croix de Golgotha. Jésus de Nazareth. En lui, nous sommes plus que vainqueurs. Comme Paul l'a dit, nous avons déjà parlé de ça, 2 Corinthiens, il a dit, grâce soit rendue à Dieu de ce qu'il nous amène toujours, en tout temps, dans le cortège triomphal de Jésus. Mes amis, il n'y a pas d'autre solution que de demeurer en Christ. Et ce soir, en attendant de nous retrouver le vendredi, eh bien, nous allons prier. Alléluia. Je voudrais donner l'occasion à chacun de nous de pouvoir prier. Si tu te retrouves dans ce que nous avons vu, tu es esclave de la porno, tes pensées sont de plus en plus souillées. Si tu es esclave de la débauche, tu es de plus en plus attiré par des expériences infâmes, par des pratiques contre nature. Ce soir, l'homme de Galilée est là. Ce soir, le Fils de l'homme est là. Ce soir, le Seigneur des Seigneurs est là. Alléluia. Alléluia. Je voudrais demander à ceux qui partent, s'il vous plaît, c'est un moment important, que nous prions avant que vous puissiez partir. Prions tous ensemble, alléluia. Invoquez le nom du Seigneur. Ô gloire à toi. Ô gloire à toi, Seigneur. Ô gloire à toi. Nous bénissons ton nom, de ce qu'en toi nous sommes plus que vainqueurs. Tu nous as donné la puissance de marcher sur toute la puissance du diable. Tu nous as donné la puissance de marcher sur le pouvoir démoniaque. Nous voulons briser l'influence de Bélial au milieu de nous. Nous voulons briser l'influence de Bélial parmi nous. Nous voulons que tu libères ceux qui sont esclaves de la porno, esclaves des pratiques impures, esclaves de l'immoralité, esclaves de toutes sortes démoniaques, des gens qui idolâtrent les autres, des gens qui sont manipulés. Que la puissance de l'Esprit descende sur nous. Dans le nom de Jésus, alléluia. Oh, merci Maître. Merci Jésus. Nous bénissons ton nom et nous t'acclamons pour ta victoire. Oh, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus.